France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
8h35, l'invité culture des matins dans le monde du livre. Aussi, on peut parler de transfert. Il vient de quitter la découverte pour prendre la tête des éditions du Seuil, choisi sur un projet qu'il qualifie d'humaniste. Notre invité, l'éditeur Hugues Jalon, bonjour.
Bonjour.
Éditeur et auteur de livres aux éditions verticales, à la tête du Seuil. Est-ce que vous êtes entré en zone de combat ?
Je suis entré en zone de combat. Et mais le combat est ancien. Je suis en zone de combat, on va dire, depuis que je suis entré dans l'édition. Puisque depuis que je suis entré dans l'édition, on me parle de la crise des sciences humaines. Ça, c'était la découverte qui était le cœur de son activité éditoriale. Et de la crise du livre, voire de la fin du livre. Donc effectivement, n'ayant pas connu d'un point de vue générationnel l'âge d'or de l'édition des années 60-70, j'ai appris ce métier et je l'ai pratiqué dans une atmosphère de crise et de combat permanent.
Qui sont vos adversaires dans cette zone de combat ?
Aujourd'hui, les adversaires, on les connaît. Ce sont essentiellement ceux qu'on appelle aujourd'hui les GAFA, puisqu'aujourd'hui, ils constituent un défi majeur pour les entreprises d'édition. Ils ont depuis des années entrepris une politique de déstabilisation de nos modèles économiques, à leur bénéfice, au bénéfice de leur chiffre d'affaires, qui parfois représente jusqu'à plusieurs fois le PIB de certains pays, on l'oublie souvent. Et malgré ça, et ça c'est vraiment peut-être la surprise et qui doit nous donner, à mon avis, confiance, le livre résiste et n'a pas connu le destin de la musique ou à certains égards du cinéma. C'est-à-dire qu'on est dans un marché qui reste relativement stable et les pratiques de lecture, effectivement, peuvent donner des signes inquiétants, mais si on regarde depuis 20 ans, le livre résiste et le livre résiste magnifiquement. Alors qu'on est face à des adversaires qui sont d'une puissance absolument inouïe et inédite dans l'histoire du livre.
Zone de combat, c'était le titre de votre premier livre paru chez Vertical en 2007. On peut un peu filer comme cela à travers les titres de vos livres, toute cette métaphore, le début de quelque chose, ça l'est assurément depuis que vous avez pris la tête du Seuil. Mais de quoi ? D'un renouveau pour cette maison fondée il y a longtemps maintenant, propriété du groupe La Martinière, passée sous contrôle du groupe Média Participation.
Alors c'est évidemment un nouveau départ avec ce changement d'actionnaire. Simplement, le Seuil est une institution du paysage éditorial français, mais à la différence d'autres institutions de ce paysage, c'est une maison jeune. On l'appelle traditionnellement la vieille maison, qui est liée effectivement au petit hôtel particulier de la rue Jacob qui a donné son logo. Mais c'est une maison jeune. Beaucoup plus jeune qu'on imagine, puisque la véritable histoire du Seuil, comme grande maison d'édition, commence dans les années 50 et se développe jusqu'aux années 60 et 70. Donc c'est une maison beaucoup plus jeune que certaines de ses concurrentes comme Gallimard, Stock, etc. Et c'est cette jeunesse-là que, aujourd'hui, j'aimerais qu'elle retrouve à certains égards.
C'est-à-dire avec un catalogue d'auteurs engagés qui ne participent pas à ce que vous appelez une fois une pensée tiède, avec des auteurs qui vont réveiller aussi le débat d'idées.
Absolument, je pense que le Seuil doit retrouver, n'a jamais perdu véritablement, mais doit occuper le terrain du débat d'idées et du débat littéraire. L'histoire du Seuil, c'est un bouillonnement, les années 50-60... je vais pas m'étendre sur l'histoire de la maison, mais c'est un bouillonnement absolument ahurissant où se côtoient des catholiques, des chrétiens progressistes, des lacaniens, des maoïstes, tout ça dans la même petite boutique. Donc ça s'engueule joyeusement et c'est le grand moment, effectivement, des sciences humaines au Seuil. Donc c'est pas une vie calme, l'histoire du Seuil, c'est une vie agitée, c'est une vie mouvementée. C'est une vie inattendue. Il faut savoir, par exemple, les gens l'ignorent, mais le Seuil, effectivement, a des origines chrétiennes. Au départ, c'est sa marque de fabrique initiale. Mais on sait peu qu'un de ses dirigeants, Michel Chodkiewicz, était un patron musulman pour une maison chrétienne. Déjà. Je trouve que ça dit beaucoup de choses aussi de ce qu'est cette maison et de sa capacité à accueillir le débat d'idées, même dans sa virulence, dans sa vitalité la plus forte, la plus radicale.
Et pour citer quelques grands noms passés par cette maison dans les 50 dernières années, sur la question ou sur ce champ de la non-fiction, de la vie des idées, Lacan, Barthes, Morin, Bourdieu, Paul Ricoeur, tous ont publié à un moment ou un autre dans les collections du Seuil. On peut donc continuer à détourner les titres de vos livres, ces pratiques, et bien penser à La conquête des cœurs et des esprits, titre de votre dernier ouvrage paru en 2015, Une conquête par le livre, fondée sur un projet humaniste que vous venez d'évoquer. Villiers-le-Bel, Tarnac, Notre-Dame-des-Landes, vous êtes un homme de gauche et vous le revendiquez. Quelle porosité quand même entre vos engagements et vos choix d'éditeur.
Alors je pense qu'on n'est pas éditeur à la découverte, qu'on est éditeur aux éditions du Seuil pour des raisons de taille. Et comme je disais tout à l'heure, le Seuil a cette immense capacité à accueillir des traditions de pensée, des traditions critiques très différentes, comme je disais, qui vont encore de l'humanisme chrétien, qui est encore présent dans l'identité des éditions du Seuil, jusqu'à des formes de critique beaucoup plus radicales, puisque le Seuil est l'éditeur de Jean-Luc Mélenchon, pour donner un exemple. Donc peuvent se côtoyer, au fond, des formes de critique. Et aujourd'hui, on va dire que la pensée progressiste est dans un état, on va dire, difficile, puisqu'elle est confrontée, et ça c'est peut-être quelque chose que nous sommes certains à ne pas avoir vu venir, à une véritable hégémonie intellectuelle de la pensée de droite, qui aujourd'hui est visible et audible dans le monde politique et dans le monde intellectuel. Et on n'a pas vu peut-être se reconstruire de manière très offensive une culture et une pensée de droite extrême, pour partie. Et je crois qu'il est temps aujourd'hui que la gauche, au sens large, les forces de progrès, comme on disait autrefois, partent à la contre-attaque.
Ça fait partie des missions, ou du rôle en tout cas, que vous vous êtes fixé en prenant la tête du Seuil.
Oui, enfin, d'une manière plus générale, je pense que le Seuil aujourd'hui, mais je pense que c'est valable de toute maison d'édition en fonction de son histoire, elle doit prendre sa place et toute sa place dans un paysage. Alors ce paysage, c'est un paysage politique, c'est un paysage moral, c'est un paysage esthétique, c'est un paysage littéraire, et c'est un paysage éditorial. Mais ça peut être aussi un paysage écologique, il y a tout à faire. Donc de ce point de vue-là, je pense que le Seuil a une taille et à une diversité de publications pour occuper et prendre toute sa place dans les débats politiques, moraux, littéraires de notre temps.
Comment vous définiriez l'héritage François Gèze, le patron de la découverte à qui vous aviez succédé en 2014? Est-ce qu'il peut tenir en quelques mots cette complicité intellectuelle que vous avez partagée toutes ces années? Qu'est-ce que vous, là, en partant de la découverte vers le Seuil, qu'est-ce que vous emmenez dans votre bagage comme principe d'éditeur?
J'emmène déjà quelque chose et je lui dois à peu près tout en matière de ce qu'est l'édition, à savoir comme pratique d'éditeur, c'est-à-dire choisir des textes, enfin les lire, les choisir, les promouvoir, mais aussi sa connaissance immense de la chaîne du livre. C'est-à-dire que le livre est aussi une industrie avec ses acteurs, ses processus, c'est son industrie, c'est voilà. Donc ça suppose de connaître aussi tout ça, et c'est ce qui m'a appris pendant les 12 années que j'ai passé à la découverte, où je suis arrivé totalement par hasard.
Et sur cette chaîne du livre que vous venez d'évoquer, Hugues Jallon, il y a des maillons qui sont en souffrance, notamment les libraires, mais aussi les auteurs. Parmi les chantiers, il y a effectivement cette question du statut des auteurs. Un hashtag a été lancé en mars dernier, paye ton auteur, qui a été suivi d'une pétition, pas d'auteur, pas de livre. Aujourd'hui, le mouvement des auteurs en colère se manifeste et attend, entre autres, des pouvoirs publics, des réponses à ce changement de régime qui se profile. Ils souhaiteraient aussi en avoir dans le dialogue avec leur maison d'édition. Plus de 40% des auteurs gagnent moins du SMIC. Aujourd'hui, cette situation interpelle un auteur. Est-ce que ça doit forcément devoir supporter cette précarité? Comment est-ce qu'on peut prendre en compte la spécificité de leur métier? Je vous propose d'abord d'écouter la voix du dessinateur-auteur Johan Sfar, qui en a donné de la voix pour défendre ce métier d'auteur depuis quelques semaines.
Depuis 100 ans, il y a une chose très bizarre, c'est que certaines personnes arrivent à vivre de la littérature. Ce qui est pas fait pour. La littérature, c'est payé avec des droits d'auteur, c'est pas des salaires. Donc, on n'a pas de vacances, on n'a pas de protection comme ça. Et on nous a mis dans le régime des indépendants comme on pouvait. Et là, il y a de plus en plus d'auteurs qui quittent le métier. Je parle de jeunes auteurs, je parle de gens débutants, parce qu'aujourd'hui, c'est en train de devenir impossible de vivre de ces droits d'auteur. On n'est pas en train de faire une revendication précise. On est en train de demander, et je crois que c'est l'Élysée qui peut le faire, que quelqu'un crée un régime pour les auteurs et qu'on réfléchisse à la fiscalité des droits d'auteur, parce que tout simplement, on est en train de ne plus réussir à vivre grâce à des droits d'auteur. Donc, quand on voit l'importance de l'industrie du livre et quand on voit que le gouvernement met la langue française au centre de son travail, on n'est pas en train de revendiquer, on est en train de demander que quelqu'un nous invente un statut, parce que tel que, on va juste pas survivre.
Johann Sfar, qui ne publie pas au Seuil, mais chez Albin Michel, alors est-ce qu'il aurait des meilleures conditions maintenant que le Seuil a été repris par vous comme auteur, et est-ce que vous voulez lancer un appel à tous les auteurs de France à venir vous rejoindre au Seuil? Plus sérieusement, qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous êtes à la tête du Seuil pour vos auteurs?
Nos auteurs, on va continuer de les accompagner. Après, Johann Sfar est un auteur de bande dessinée. Et c'est vrai que la bande dessinée...
Pas seulement, mais
c'est une activité, principalement, une activité d'auteur, entre guillemets, à plein temps. Puisque j'ai publié pour la première fois quelques ouvrages de bande dessinée à la Découverte, et je vais continuer de le faire au Seuil. J'ai vu ce qu'était un travail de dessinateur, c'est un travail à plein temps. Ce qui est moins le cas pour un auteur de sciences humaines, un auteur de littérature, qui souvent, ça j'avais publié un ouvrage de Bernard Lahire sur la condition littéraire, qui montrait que 80%, voire 90% des auteurs en France avaient un second métier. Et c'est le cas aussi des grands écrivains. On a souvent oublié que Kafka travaillait dans les assurances, que Francis Ponge avait un autre métier et écrivait sa poésie, ses poèmes, ses textes, comme il disait, 20 minutes le soir avant de dormir. Donc, c'est pas une excuse pour dire qu'il faut mal payer les auteurs, mais on est dans une situation aujourd'hui où l'édition est prise entre effectivement les revendications tout à fait légitimes des auteurs, et les auteurs sont le point de départ, le cœur, ils forment ce par quoi nous n'existerions pas, et ces acteurs dont je parlais au début, à savoir ces GAFA, qui sont d'une puissance absolument ahurissante quand on y pense, et au milieu. Voilà, l'édition doit trouver son modèle d'affaires et aussi tirer les leçons de ce qui est arrivé, entre guillemets, à la musique. Où là encore, les auteurs ont été les parents pauvres des grandes mutations de ces dernières années.
Avoir deux boulots, beaucoup d'auteurs s'en passeraient bien. Pour certains, c'est quand même juste une nécessité de ne pas pouvoir vivre de sa plume, ce qui empêche aujourd'hui de se concentrer sur ce travail d'écriture qui est aussi le leur. Donc ça ne répond effectivement pas à toutes les questions. Un livre sur 10 fonctionne bien, c'est en gros la statistique. Est-ce que les auteurs sont victimes pour vous de surproduction ?
C'est un débat compliqué. Je pense qu'effectivement, il y a une part de surproduction aujourd'hui dans le paysage éditorial français. En même temps, la surproduction, ou en tout cas une production importante, c'est aussi un gage de diversité éditoriale. Et cette diversité éditoriale, nous y tenons. On imagine mal aujourd'hui un paysage éditorial où on publierait deux fois moins de livres, trois fois moins de livres, puisqu'on sait que ça signifierait une prime au best-seller. Et une concurrence accrue entre des textes moins nombreux pour gagner plus de lecteurs. Et donc je pense que c'est très important aujourd'hui de conserver comme une boussole intellectuelle, une boussole morale aussi, la plus grande diversité éditoriale possible.
Et d'accepter qu'une partie des livres n'auront pas de vie ?
Ça, c'est la dure vie de l'éditeur. Voilà, on fait un métier qui est un métier où on produit des prototypes. On en publie 300, 400, 600 par an. On a du mal à imaginer. On ne fait pas d'études de marché, à la différence d'autres industries. Et à la différence de l'industrie automobile, on ne lance pas deux modèles par an, on en lance 600. Et donc évidemment, sur ces 600 livres, tous n'ont pas le même destin en termes de vente. Simplement, ce qui est très important, c'est qu'un éditeur veut toujours que ses livres se vendent et se lisent. Ça reste quand même très important. Et moi, quand je vois qu'un ouvrage de sciences humaines ardu, ou un ouvrage de littérature difficile se vend 1000 exemplaires, 2000 exemplaires, 4000 exemplaires, 5000 exemplaires. Enfin, 5000 exemplaires, c'est quasiment une petite manif dans Paris, si vous réunissez tous les gens. Eh ben, c'est pas si mal.
Vous vous dites, j'ai fait le job.
Oui.
Le métier d'auteur est extrêmement attractif pour les individus. L'industrie a besoin d'une grande diversité de production pour être rentable et ces facteurs provoquent surproduction, donc précarité. C'est ce que nous disait ici sur France Culture le sociologue Pierre-Michel Menger, titulaire de la chaire Sociologie du travail créateur au Collège de France. Il nous disait cela, mais pas que.
Il a deux ou trois sources de revenus directs ou indirects liés à son acte de travail créateur.
Les droits d'auteur,
principalement. Il a le droit d'auteur, il a les droits dits de reprographie, les droits de prêt, qui sont gérés par des sociétés collectives d'ailleurs. Le droit d'auteur a toujours été géré par les maisons d'édition individuellement, alors que dans la plupart des autres métiers artistiques, ce sont des organisations collectives qui sont tenues à réagir à des crises, des controverses, et à introduire autant de transparence que possible dans la relation, parce que chacun est organisé collectivement des deux côtés, l'organisation gestionnaire et les collectifs d'auteurs et les ensembles d'artistes. Mais là, on a toujours une relation individuelle.
Est-ce que c'est pas le problème aussi aujourd'hui, Hugues Jalon, que on a l'impression que tout se négocie entre l'auteur et la maison d'édition, qu'il n'y ait pas des principes qui valent pour toutes les maisons d'édition dans leur rapport avec les auteurs. Cette dépendance que l'auteur a par rapport à son éditeur.
Enfin, cette dépendance, l'éditeur dépend de son auteur aussi. Et il y a un rapport de force qui existe, ça s'appelle, enfin, qui s'inscrit, se matérialise dans le contrat d'auteur. Il y a effectivement des clauses qui sont légales, qui se négocient au niveau de l'interprofession, et entre les auteurs et les éditeurs. Et puis, un certain nombre de clauses restent à discuter, intuitu personae, entre l'éditeur et l'auteur.
Au seuil, quelle est en gros la part du livre qui revient à l'auteur?
Ça, c'est difficile à évaluer puisque les ratios de droits d'auteur, je sais pas, sur 10, 11, 12%, ça dépend des contrats.
Ce qui est plutôt pas mal. Parce que dans beaucoup de maisons d'édition, aujourd'hui, c'est entre 7 et 8%.
Il y a mieux.
D'accord. Comment rééquilibrer, d'après vous, la valeur du livre au profit des auteurs? Comment revaloriser cette rémunération des auteurs? Est-ce que vous l'envisagez ou est-ce que pour l'instant le système vous semble à peu près juste?
Non, je pense qu'il y a des discussions en cours sur la rémunération des auteurs lors de leur performance publique. Je pense que ça c'est un élément important et à prendre en compte. Il y a des auteurs aujourd'hui qui circulent en librairie, sur des scènes, font des performances, des lectures, etc. Ils ne sont pas toujours rémunérés pour ces prestations. C'est quelque chose qu'il faut, à mon avis, envisager. Et certains, effectivement, vivent mieux de ces performances-là que de leurs droits d'auteur.
Ça fait partie des enjeux aujourd'hui. C'est aussi un des risques évoqués par l'historien du livre et l'édition Jean-Yves Molière. Voir partir les auteurs vers les géants du numérique que vous disiez redouter, Hugues Jalon, au détriment des maisons d'édition traditionnelles parce qu'ils rémunèrent mieux les auteurs, parfois autour de 30%, ce qui est très attractif, très attirant pardon, pour un auteur.
Oui, ça c'est un vrai risque. C'est-à-dire, on voit bien que ce que nous on appelle l'auto-édition par Amazon, etc., fonctionne, enfin crée un business que certains de mes collègues dans d'autres maisons d'édition observent régulièrement. Je pense que non, je pense qu'il faut se faire confiance. Je pense que les éditeurs doivent savoir, encore une fois, nous avons résisté beaucoup mieux que la musique, pour des raisons qui peuvent assez facilement s'expliquer à mon avis, à l'irruption de ces géants et de leur capacité d'attraction, enfin de déstabilisation de nos modèles d'affaires, de la librairie, éventuellement de l'édition. Je pense que nous avons fait, entre guillemets, les choses bien par rapport à ce qu'a pu faire l'industrie de la musique. Mmh. On oublie souvent, par exemple, que l'industrie de la musique, dans les années 80, elle a, quand vous aviez les Beatles en vinyle, ok ? Eh ben, on vous l'a fait racheter en cassette,
ouais.
On vous l'a fait racheter en CD, et après, maintenant, on essaie de vous faire racheter en MP3. Dans les années 80, la musique, elle se portait très, très bien. C'est-à-dire, nous, si on avait eu la possibilité de faire revendre sur d'autres supports, tout Proust, tout Zola, etc., on se porterait très bien. Après, il ne faut pas s'étonner qu'on ait piraté quand on a eu le sentiment d'avoir, entre guillemets, un petit peu escroqué ses clients. Nous, dans les années 80, dans les années 70-80, nous on avait le livre de poche. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand l'industrie du disque s'est mise au CD, Madonna était à 17 euros en 97, mais en 98, le disque de Madonna, il était toujours à 17 euros. Et un an plus tard, il était toujours à 17 euros. Un livre, aujourd'hui, il sort à 19, 20, 21 euros. Une année plus tard, un an et demi plus tard, il est à 9 euros, à 8 euros, à 7 euros. Voilà, je crois qu'on a pu recréer, ça c'est très important vis-à-vis du lecteur, avoir un comportement de prix relativement raisonnable vis-à-vis de nos lecteurs.
Vous taclez l'industrie du disque, en fait, au Jalon.
Ben disons que à certains égards, on oublie souvent, ils se sont beaucoup plaints et ils ont raison, ils ont été fortement déstabilisés, enfin leur modèle économique a été fortement déstabilisé, mais il faudrait aussi, voilà, ils auraient pu faire à certains égards amende honorable sur la manière dont ils ont géré effectivement l'évolution des technologies dans les années 70, 80. Et encore une fois, revendre tous les Beatles trois fois, ça crée plus qu'une rente.
Bon, alors un chiffre d'affaires en baisse pour l'édition de 1,6% l'an dernier, en 2017, selon le syndicat national de l'édition. Vous disiez, on a résisté. Là, vous avez le sentiment qu'on commence à entrer sur cette pente douce aujourd'hui, ou c'était la faute aux élections, juste une mauvaise passe cette année?
Oui, je crois
2017.
Pas. Les années électorales sont toujours des années difficiles pour l'édition. Les gens regardent la télévision, consultent leur smartphone, etc. Si on regarde sur les 20 dernières années, l'industrie du livre a vu son chiffre d'affaires progresser. Le livre, globalement, c'est une progression de chiffre d'affaires toujours très régulière et relativement faible, de même que sa rentabilité. C'est un business, on va dire, stable.
Un mot de la réforme du droit d'auteur qui vise à la création d'un droit voisin pour les éditeurs. À l'ère du numérique, ce droit voisin, similaire au droit d'auteur, devrait faciliter la rémunération des éditeurs de presse par les plateformes exploitant leur contenu via les téléchargements par des utilisateurs. Elle est importante, cette réforme, elle est bien menée et bien posée actuellement à Bruxelles.
Alors, je ne suis pas un spécialiste des droits voisins sur la presse. Ça, c'est une réforme, une directive qui nous touche sans doute moins, même s'il y a la question de l'exception pédagogique qui reste pendante pour nous. Il me semble qu'on est dans une période de rééquilibrage. Voilà, encore une fois, les GAFA, les fameux GAFA, ont fortement déstabilisé les modèles économiques de la presse ces dernières années. Au détriment des éditeurs de presse et des auteurs. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment besoin de rééquilibrer la localisation de la valeur et de faire revenir auprès des éditeurs de presse, enfin les éditeurs premiers, puisqu'on peut considérer que Google, etc., sont des éditeurs seconds, que des formes de rémunération reviennent aux auteurs. Simplement, je pense que c'est très important de défendre les principes, et ça, il y a des acteurs qui le font très bien, de principes de la neutralité du net, etc. Il ne faut pas que, à mon avis, ce genre de réforme ouvre la voie à des reculs en matière de neutralité et de liberté du web.
Alors, il va se passer quoi au Seuil, à leur entrée littéraire, ce grand moment tant attendu? Combien de nouvelles parutions pour vous?
En littérature française, 5. Ouais. Donc, c'est une rentrée relativement resserrée.
5?
Ouais.
5 romans?
Ouais.
Uniquement.
D'accord. Ça, je pense qu'aujourd'hui, et je vois qu'on est. C'est Olivier Bétourné, mon prédécesseur, qui avait pris la décision, et qui était, à mon avis, une très bonne décision d'avoir une rentrée littéraire plus resserrée. Et j'ai l'impression que nos collègues et concurrents sont en train de nous imiter.
Et là, on peut peut-être en citer deux parmi les cinq, un peu dans la continuité des questions qu'on a évoquées avec notre premier invité, Stephen Smith. Les cigognes sont immortelles, le roman d'Alain Babankou qui s'ouvre chez lui à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Grande fresque sur le colonialisme et les impasses du continent africain. Et un deuxième, Frère d'âme de David Diop, sur l'amitié de deux tirailleurs sénégalais qui combattent sous le drapeau français, pris dans le carnage de la guerre. Là aussi, à travers les souvenirs, une évocation de l'Afrique par l'un de ces deux tirailleurs. Un mot de ces deux livres?
Un mot, ce sont des textes magnifiques pour des raisons différentes. Je pense Alain, de son côté, poursuit et fait passer une sorte de cap à son œuvre en y intégrant une dimension historique et politique jusqu'à maintenant moins visible. Et ça fait un grand, grand texte de rentrée. Quant à Diop, c'est un texte plus bref, avec une écriture extrêmement puissante qui, à mon avis, devrait trouver son public et alerter la critique.
Merci beaucoup à vous,
Jalon.